Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve de nouveau dans ce nouvel enregistrement pour vous expliquer le troisième cours du module argumentation et analyse du discours intitulé Argumentation et énonciation. Donc on va voir les rapports qui existent entre les techniques de l'argumentation et l'énonciation comme théorie. Alors premièrement, argumentation et théorie de l'énonciation. Si l'on adopte la définition de l'argumentation comme mode de construction d'un discours visant à le rendre plus résistant à la contestation, cela signifie que l'on considère comme centraux les points suivants. Premièrement, l'argumentation suppose l'existence d'un désaccord et donc d'une divergence, c'est-à-dire que on ne prêche pas à un convaincu. Il faut qu'il y ait un désaccord pour pouvoir convaincre l'autre. Secondo, le développement d'un discours argumentatif est conditionné de diverses façons par l'existence de ce désaccord. C'est lui qui rend le discours argumentatif pertinent et c'est à cause de l'existence d'un désaccord que le discours argumentatif est fondamentalement tourné vers un contre-discours, que celui-ci soit mentionné explicitement ou non. Il en résulte donc que le discours argumentatif est toujours polyphonique. Ceci veut dire qu'il fait sens au sein d'un réseau d'autres discours par rapport auxquels il se positionne, soit en s'y alliant, à travers la recherche de coalitions, de soutien, de garants qui viennent renforcer la position défendue, soit en s'en démarquant, c'est-à-dire à travers la mise en scène d'un adversaire par rapport auquel le discours argumentatif se pose en s'opposant. Ainsi, une des premières tâches à accomplir lorsqu'on se trouve face à un texte ou un discours argumentatif, c'est de s'assurer d'attribuer correctement les points de vue portés par les énoncés présents dans les données. Il s'agit, dit grossièrement, de répondre à la question qui parle. Pour répondre à cette question, il ne suffit pas de savoir qui a la parole, mais plus subtilement, de savoir qui prend en charge les points de vue exprimés. Pour ce faire, l'analyse argumentative doit recourir aux théories et méthodes définies par la linguistique de l'énonciation, qui permet de circonscrire l'hétérogénéité et la hiérarchisation des voix qui se font entendre à l'intérieur d'un même texte ou discours. En particulier, on mobilisera la distinction entre locuteur, c'est-à-dire celui qui parle et auquel renvoient les marques de première personne, et l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui prend en charge les points de vue. Un locuteur dans un discours peut faire entendre plusieurs points de vue portés par des énonciateurs plus ou moins précisément identifiés et auxquels il peut s'identifier ou non. Lorsqu'un locuteur L produit un énoncé E, en entendant par là un segment de discours, occurrence d'une phrase de la langue, il met en scène un ou plusieurs énonciateurs accomplissant des actes illocutoires. Le locuteur peut adopter vis-à-vis de ces énonciateurs deux attitudes. Soit il peut s'identifier à eux en prenant alors en charge leurs actes illocutoires, soit il peut s'en distancier en les assimilant à une personne distincte de lui. Personne qui peut être ou non déterminée. Ainsi donc, le locuteur est susceptible, à travers de son acte d'énonciation, production de l'énoncé, d'accomplir des actes de langage par deux voies différentes. D'une part, par son assimilation à tel ou tel énonciateur, et d'autre part, par le fait même qu'il fait parler des énonciateurs et leur confère ainsi une certaine réalité, même s'ils se distancient d'eux. C'est une citation citée dans le manuel de Ducrot, daté de 1983. Un préalable à l'analyse argumentative consistera donc à repérer les indices qui permettent de localiser les manifestations de l'hétérogénéité énonciative d'un discours et à déterminer si le locuteur s'identifie à un des énonciateurs qu'il fait entendre. Et si oui, auquel? Afin de répondre à cette dernière question, seront recherchées toutes les marques de subjectivité de locuteur, tout ce qui témoigne de son attitude vis-à-vis des voix mises en scène. Les indices pris en considération sont donc nombreux et hétérogènes, tels que les guillemets, les verbes introducteurs de discours rapportés, tels que prétendre ou montrer, les désignations du discours de l'autre, tels que baratin, propos, démonstration, etc. Les chercheurs proposent la liste suivante. Alors, on a les modalités syntaxiques telles que la négation, l'interrogation, l'exclamation, etc. Deuxièmement, l'expression de la concession à travers malgré, mais, néanmoins, pourtant, certes, il est vrai que, etc. Certaines locutions restrictives telles que du moins, tout au moins, etc. Les syntagmes attributifs tels que selon A, d'après A, pour A, si l'on croit A, etc., etc. Le déterminant en plus les verbes de parole, on entend dire, on dit souvent, etc. Les pronoms indéfinis tels que certains, les uns, les autres, etc. Le verbe paraître, il paraît que, paraît-il, à ce qui paraît. La ponctuation, guillemets, point d'exclamation, point de suspension. L'expression du doute, la modalité de l'incertain et la conjugaison des verbes conditionnels. Les modificateurs exprimant le doute, soi-disant, prétendu, pseudo, etc. Certains verbes d'opinion, tels que prétendre, s'imaginer, se figurer, etc. L'antiphrase ironique et les axiologiques négatifs des mots comme abrutir, inutile, etc. Donc les auteurs précisent bien que les procédés qui permettent aux locuteurs d'exprimer divers types et divers degrés d'adhésion à une thèse sont impossibles à énumérer exhaustivement et ne sont malheureusement pas univoques. La liste qui précède est donc à comprendre comme spécifiant à titre indicatif quelques-uns des indices langagiers qui guident l'interprétation du lecteur ou auditeur en la matière. Deuxièmement, l'énonciation et l'enseignement de l'argumentation. Alors, des erreurs dans l'identification ou le codage de l'attribution des points de vue sont à l'origine d'un bon nombre de difficultés dans l'analyse et la production des discours argumentatifs. En production, et en particulier en littérature, de telles erreurs expliquent le sentiment qu'on a parfois à la lecture de textes argumentatifs dont les auteurs semblent dire une chose et son contraire, et défendre successivement, sans hiérarchisation visible, plusieurs positions incompatibles sur un même sujet. La tradition française de l'organisation des dissertations en trois points, thèse, antithèse, synthèse, est ainsi souvent interprétée comme il faut dire une chose, puis son contraire, puis un peu les deux. Alors qu'un jeu maîtrisé sur les attributions de points de vue peut faire de ce plan un cadre intéressant pour développer une position complexe sur un sujet. En analyse, on observe des contresens parfois surprenants dans l'identification de la thèse défendue par le locuteur. En particulier, l'usage de l'ironie pour aboutir à de tels contresens. Plus subtilement, des échecs dans l'identification de la structuration des textes argumentatifs sont souvent dus à l'incapacité de l'analyste à repérer les éléments de contre-discours qui organisent l'argumentation. Si les phénomènes énonciatifs sont importants pour l'analyse argumentative, dans la mesure où ils contraignent l'attribution des points de vue par l'analyste, il ne tient pas lieu pour autant à eux seuls d'analyse argumentative. Ils ne peuvent permettre d'éclairer la nature justificative du passage d'un énoncé argument à un énoncé conclusion, pas plus qu'ils ne peuvent suffire à décrire des procédés d'objection ou réfutation, par exemple. Troisièmement, les actants et les acteurs de l'argumentation. Afin de mieux saisir les enjeux énonciatifs liés à l'argumentation, on reprend la distinction établie par Plantin entre acteurs et actants de l'argumentation. Les acteurs de l'argumentation correspondent, grosso modo, aux locuteurs. Ce sont les personnes engagées dans l'échange argumentatif et qui portent concrètement les discours argumentés. Les actants, quant à eux, de l'argumentation, les opposants, les proposants et tiers, correspondent aux rôles argumentatifs qui sont mis en scène dans le discours argumentatif. On peut considérer que ce sont des conglomérats d'énonciateurs rassemblés en fonction de la position qu'ils défendent sur le sujet en discussion. Donc, interaction orale, interaction écrite. Lorsqu'on demande aux étudiants de proposer des discours argumentatifs prototypiques, ils proposent généralement des types purs, comme un débat électoral entre deux candidats, où les rôles actantiels sont pris en charge par des acteurs différents, ou un éditorial de presse écrite, où un seul acteur joue les différents rôles argumentatifs tout en privilégiant un. Il convient de complexifier un peu les choses en soulignant que il existe des interactions écrites, voire par exemple les échanges sur les forums de discussion sur Internet et des monologues oraux. Une argumentation produite en interaction dialogale impliquant deux participants ne suppose pas que les rôles actantiels de proposant et opposant se distribuent sur chacun des acteurs de l'argumentation, un pour et l'autre contre. Même lorsque l'interlocuteur joue le rôle d'adversaire et assume donc le discours de l'opposant, rien n'interdit au locuteur qui assume le rôle de proposant de faire entendre dans son discours et par le biais de la polyphonie des éléments du contre-discours. Ainsi, si le discours argumentatif écrit, puisqu'il est produit par un locuteur unique, est nécessairement polyphonique et fait entendre tant le discours de proposition que le discours d'opposition, le discours en interaction est, on le verra le plus souvent lui-même, également polyphonique. Donc, pour comprendre tout ça, on fera en classe la semaine prochaine une étude de cas à travers l'analyse d'un texte argumentatif dans lequel on va analyser l'énonciation, l'énonciateur, l'énonciataire, les actants et les acteurs de l'énonciation. Merci de votre écoute.